Chapitre 14. Johan Jönsson arrache le coin d'un sachet rouge de Pop Rocks avec ses dents, porte l'ouverture à sa bouche et y verse la poudre pétillante. Les bonbons se mettent à crépiter sur sa langue, tandis qu'il tente d'améliorer l'image du tueur. « Ça marchera pas », déclare-t-il en se penchant en arrière. « C'est juste un nuage de poussière. » Manvir se lève, passe la main sur sa cravate et se campe dans un coin de la pièce, les yeux fixés sur la ligne verticale où les deux murs se rejoignent. Peter ouvre la bouche dans l'intention de dire quelque chose, mais Greta l'arrête. « Laisse-le tranquille », chuchote-t-elle. Johan Jönsson clique sur une icône noire qui ressemble à un vieux jeu de labyrinthe et l'écran de l'ordinateur devient complètement noir. « Je vais essayer un programme appelé Exterminol, mais je suis pas certain que ça va aider. » Juna étudie les premières conclusions du rapport médico-légal sur l'arrière-cour d'Orsta. Greta compare les photos des trois victimes. Peter feuillette distraitement une copie du rapport de police et Saga se tient derrière Johan et fixe l'écran de l'ordinateur en fronçant les sourcils. « Ça ne marche pas ?» demande-t-elle. « Non, on ne pourra pas obtenir mieux que ça, » répond-il en fixant sur elle ses yeux injectés de sang. Tous se rassemblent devant l'ordinateur de Johan, excepté Manvir, qui reste dans l'angle de la pièce. L'image la plus nette qu'ils ont de l'agresseur n'est qu'un nuage gris derrière Simon. On aperçoit le contour des épaules et de la tête, mais pas les traits du visage, ni les extrémités des membres, pas même les vêtements. « On ne peut pas évaluer sa taille ?» demande Greta. « C'est difficile, » répond Johan, « parce que, d'après ce qu'on voit, il marche le dos courbé. Sa position est assez étrange. Peut-être qu'il se déplace à quatre pattes ?» avance Saga. C'est complètement dément ce truc, soupire Peter.
Je sais qu'on n'a pas grand-chose, dit Juna, mais c'est déjà un premier aperçu. On voit sa rapidité et sa manière de foncer sur sa proie par surprise.
Comme un prédateur, murmure Greta. Et nous savons qu'il est silencieux. Il ne parle pas, continue Saga. La pièce s'assombrit soudain quand l'ordinateur se met en veille. Le ventilateur tourne au ralenti. Seul le lent tic-tac provenant de l'horloge murale est perceptible.
« On était vraiment pas loin, »
souffle Greta en croisant le regard de Juna.
« On aurait pu la voir si le temps avait été de notre côté. »«
Qui sait ?» répond-il.
« Il aurait suffi que tu arrives 5 minutes plus tôt ou que Simon n'éteigne pas sa radio. »«
C'est ce qu'on pourrait croire. »
répond Juna en fixant le tableau blanc et les photos sur le mur.
Mais ce jeu a été créé par le tueur. C'est lui qui en établit les règles et nous avançons selon son rythme à lui.
Il faut qu'on soit plus rapide et plus intelligent, poursuit Greta. Nous savons que Margot a été abattue au centre équestre de Verme 2 et retrouvée dans le vieux cimetière du choléra près de Kapelskär. Nous ignorons encore où Séverine a été abattue. Mais il a été retrouvé dans un cimetière à Alstavik. Deux lieux de sépulture. Il s'agit peut-être d'un schéma récurrent, dit Saga. Et Simon a été abattu à l'extérieur d'un bar, poursuit Greta. Mais nous ne connaissons pas encore le lieu où on le trouvera. Il est peut-être encore en vie, rappelle Peter.
Je sais. Et en ce moment, il est probablement dans un sac en caoutchouc en train de lutter pour survivre.
Dit Greta en détournant le visage.
Exactement, poursuit Peter.
Oui, mais on ne peut pas penser à ça. Je ne peux pas. Pas si je veux pouvoir me concentrer sur mon travail.
Je voulais juste le mentionner. C'est chose faite,
le coupe-t-elle.
Mais la question est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Interroge Peter en balayant la table avec les paumes de ses mains.
Il faut qu'on le trouve, murmure Greta. Ce prédateur est actif sur une zone assez large, dit Saga. Je veux dire, entre le centre équestre de 22 et le cimetière de Alstavik, il y a peut-être 70 kilomètres à vol d'oiseau.
Si on prend le diamètre d'un cercle, on parle de presque 4000 kilomètres carrés. Et il n'y a aucune raison de penser qu'il reste à l'intérieur de ce cercle. Note Greta.
Peu importe, on peut pas rester assis là à rien faire.
S'énerve Peter en se levant de sa chaise.
Non, Mandvir.
Laisse-le tranquille, répète Greta.
On double le diamètre et on demande aux régions concernées d'envoyer des voitures dans tous les cimetières, propose Jonah.
Je m'en occupe tout de suite,
répond Peter, qui se lève au moment où Randy franchit le seuil de la salle de réunion. Il est vêtu d'un jean noir et d'une veste grise. Ses sourcils anguleux donnent à son visage amical un air sévère.
« J'ai eu les retours de toutes les unités d'Orsta, »
dit-il en se raclant brièvement la gorge.
« Malheureusement, ça n'a rien donné pour l'instant. Porte à porte, les barrages routiers, les radars, les recherches. Ils vont devoir continuer encore un peu, » dit Greta.
Randy essaie d'attirer l'attention de Saga avant d'acquiescer dans un murmure. Puis il sort et ferme la porte derrière lui. Mandvir quitte le coin de la pièce sans un mot, se dirige vers le tableau blanc, prend un marqueur sur l'étagère et reprend les faits concernant la troisième victime. Un tueur en série avec 9 meurtres planifiés. Victime numéro 1, une femme d'âge moyen, directrice de la NOA. Victime numéro 2, un homme âgé, prêtre à l'église Maria Magdalena. Victime numéro 3, un homme d'âge moyen, officier de police souffrant d'alcoolisme. Un tueur qui communique, peut-être pour se décharger de sa responsabilité. Référence, Jurek Walter, Saga et Juna. Figurine en étain, envoyée à Saga, prédisant la prochaine victime. Tire sur ses victimes dans le dos et à bout portant. Munitions, cartouche russe Makarov 9 x 18 mm parabellum, amorce au mercure, chemisage en argent. Possède une voiture avec un treuil électrique. Lieu des meurtres et lieu de découverte des corps différents. Lieu de découverte des corps, des cimetières. Corps dissous avec de la soude caustique dans des sacs mortuaires en caoutchouc. Absence d'indices. Prudent, des notions en médecine légale. Connaissance des matériaux, fonte d'étain, argent chauffé à blanc, soude caustique. Pas perfectionniste, manque de finesse des figurines en étain. Se déplace très rapidement, comme un prédateur. Mandvir rebouche le marqueur. Recule de quelques pas et relie tous les points avant de se tourner vers les autres.
Saga, tu as dit que le tueur s'identifiait d'une certaine manière à Jurek Walter.
Oui, à cause de l'anagramme sur la carte postale. Peut-être un jeu ou une façon de nous provoquer.
Mais comment connaîtrait-il l'existence de Jurek alors que tout ce qu'il concerne est classé confidentiel? Demande Greta.
On a eu une sérieuse fuite dans les médias,
rappelle Juna.
Que 3 policiers savent, le monde entier le sait,
lâche laconiquement Mandvir.
Plusieurs dizaines d'agents étaient impliqués à la fin de l'enquête, précise Juna. Et on a mis une grosse équipe sur le coup ici pour tenter de retrouver les corps toujours disparus.
Mais pourquoi Jurek? Demande Greta.
Notre tueur n'est pas un copycat.
Si l'on analyse sa façon d'agir, c'est tout le contraire, en fait.
Il doit y avoir un autre lien, dit Saga.
Nous avons 3 meurtres jusqu'à présent.
Mais quel est son modus operandi? Interroge Mandvir en faisant un geste vers le tableau blanc.
Il a étudié ses victimes, probablement pendant un certain temps. Il sait où et quand frapper,
commence Saga en se levant de sa chaise.
Très organisé,
résume Mandvir en écrivant sur le tableau.
Il se glisse en silence derrière elle, les attaque avec une rapidité inattendue et leur tire dans le dos à une très courte distance.
Nous avons une nouvelle balle en argent de la même dimension que les munitions classiques Makarov 9 x 18 mm adaptées au Makarov soviétique,
ajoute Mandvir. La balle paralyse les victimes pendant le transport, j'imagine. Poursuit Saga en pointant du doigt les photos des traces de sang dans l'écurie. Nous ignorons pourquoi il ne les tue pas aussitôt, mais ça fait clairement partie de son plan.
Je suis d'accord.
Acquiesce Greta. Peu de temps après l'enlèvement, il dépose les corps dans un nouvel endroit, peut-être un cimetière, dans un sac en caoutchouc rempli de soude caustique, enveloppé dans du plastique, des draps et maintenu avec une corde.
L'aiguille n'a pas été en mesure de déterminer la cause directe du décès, si c'est la blessure par balle ou autre chose, précise Juna. Nous ne savons même pas si les victimes étaient mortes quand la corrosion a commencé. Il ne cherche pas seulement à tuer ses victimes. Il veut les anéantir.
Saga s'assied à sa place. Le visage de Mandvir est blême quand il tire à nouveau le bouchon du marqueur et écrit « Tueur organisé, étudie ses futures victimes, connaît leurs habitudes. A une raison de garder les victimes en vie. Volonté d'anéantir ses victimes. » Mandvir pose le marqueur sur l'étagère, retourne à sa place, défait le bouton supérieur de sa veste et remonte légèrement les jambes de son pantalon avant de s'asseoir.
Les figurines en étain sont l'énigme la plus tangible, dit-il. Elles sont sa manière de communiquer avec nous.
Comment devons-nous les interpréter? Pourquoi de l'étain? Pourquoi des petites sculptures?
Questionne Greta.
Ma première association est, bien sûr, les soldats de plomb,
réfléchit Mandvir.
Quand j'étais petit, on moulait des soldats, on les peignait et on les plaçait dans des batailles historiques.
Difficile de vendre ça aux jeunes d'aujourd'hui,
sourit Greta.
Je veux des observations concrètes, s'il vous plaît,
réplique Mandvir, sans sourire en retour.
Les boîtes en carton envoyées à Saga sont ce qu'il y a de plus courant en Suède. Elles sont impossibles à tracer.
Pareil pour le ruban adhésif, ça se voit partout,
dit Peter en pointant du doigt deux photos.
Les figurines en étain semblent avoir été emballées avec ce que le tueur avait sous la main.
Peut-être des déchets récupérés dans des poubelles,
enchaîne Greta.
Du plastique sale, du vieux papier, des bouts de tissu.
Les techniciens n'ont trouvé aucun matériel génétique,
poursuit Peter. Juna ouvre l'une des chemises, sort les photos de leur enveloppe, les pose sur la table devant lui et les parcourt du regard. Un t-shirt déchiré avec l'emblème de l'équipe de baseball des Dodgers et la moitié du menu d'un bar. Un morceau de papier bulle avec un autocollant déchiré de la fabrique de porcelaine Gustavsberg. La page arrachée d'une encyclopédie. Au recto, des fragments d'articles sur les oiseaux appartenant à la famille des Trogonidae et le composé chimique Troilite. Au verso, une grande photo du cheval de Troie représentée sur une amphore de 670 avant Jésus-Christ. Un petit morceau de tissu bordé de dentelle et la photocopie d'une vieille carte dessinée à la main montrant une ville appelée Al-Majdal, près d'un lac. Au dos de la feuille, un dessin d'enfant tracé au crayon rouge représentant une famille assise autour d'une table. Greta observe le visage concentré de Juna et les clichés étalés devant lui.
Juna, à quoi tu penses?
La figurine en étain de Margot était emballée dans un article sur le cheval de Troie et dans un emballage de Gustavsberg,
répond Juna.
Celle de Simon, dans le menu d'un bar, et dans un morceau de tissu avec l'emblème d'une équipe de baseball de Los Angeles.
L'écurie et le L est bar,
souffle Saga.
Le prédateur nous dit où il va abattre sa prochaine victime,
poursuit-il.
Mon Dieu,
murmure Greta.
La figurine du prêtre se trouvait dans ce tissu,
dit Juna en tendant la photo à Saga.
« Ça vient probablement d'une robe de baptême, »
suggère Greta.
« J'ai cherché la ville d'Al-Majdal, mais elle n'existe plus, »
indique Saga, son portable à la main. L'endroit fait aujourd'hui partie de la ville israélienne de Migdal, autrement dit, Magdala, dans la langue de Jésus.
Quelqu'un peut vérifier auprès de l'église Maria Magdalena si elle leur manque une robe de baptême, demande Jonah.
Je m'en occupe, lance Peter. Donc il nous dit à l'avance qui il va tuer et où ça va se produire.
Et pourtant on n'a pas été capable de l'arrêter,
soupire Manvir en desserrant son nœud de cravate.
C'est comme si t'étais d'accord avec lui pour dire qu'on doit assumer une partie de la responsabilité,
marmonne Peter.
Arrête, lui intime Greta. Putain, c'est tellement frustrant.
Je sais, je suis d'accord. Mais à partir de maintenant, on a compris les règles du jeu,
répond Greta en se levant de sa chaise.
Quand la prochaine figurine arrivera, et on sait qu'elle arrivera, le coup d'envoi sera donné.